Radio Kawa présente Ludographie comparée, une émission proposée par Mathieu Gou. Thème de l'émission.
Cette émission sera consacrée au jeu Super Mario Bros. 2, sorti en 1988 sur NES. Il sera interrogé les relations entre les personnages jouables et leurs pouvoirs respectifs, en s'arrêtant notamment sur le cas de la princesse Peach, dont on analysera le rôle dans les autres jeux de la série des Super Mario.
Première partie, présentation et problématique.
En Europe et aux États-Unis, les seconds jeux de plusieurs séries, dont le premier épisode connut une certaine postérité, se démarquent parfois notablement des premiers. Castlevania 2 est une aventure ouverte tandis que Castlevania est linéaire. Zelda 2 est de côté, alors que The Legend of Zelda était de dessus. Super Mario Bros. 2 reconfigure parfaitement le gameplay de Super Mario Bros. Certes, les spécialistes savent bien que le vrai Super Mario Bros. 2, mieux connu chez nous sous le nom de The Lost Levels, est sorti entre-temps au Japon et reprend tel quel le gameplay du premier épisode. Ce que nous connaissons, c'est une version réécrite, redessinée, de Yume Kojo Doki Doki Panic, dont les sprites ont été rectifiés pour ressembler, notamment, à ceux de Super Mario Bros. En vérité, seuls les 4 héros ont été redessinés. Tout le reste, Shy Guy, Pocky, Bombombe, etc., ont été globalement conservés et, depuis, intégrés parfaitement dans l'univers du plombier, avec le succès qu'on leur connaît. L'inclusion des héros du monde champignon a cependant surtout été graphique. Les pouvoirs alloués à chacun, notamment, sont les mêmes. Ils peuvent sauter et prendre des objets ou des ennemis et les lancer, et ils se distinguent par la célérité avec laquelle ils peuvent accomplir ces actions. Les uns sautent, ou courent, ou arrachent les légumes, plus ou moins vite que les autres. Et une balance s'effectue ainsi, permettant au joueur de choisir, s'il en a le désir, le héros le plus à propos pour le niveau en cours. Parmi tous ces personnages, la princesse Peach, figure Mario-esque de Lina, la jeune fille de Doki Doki Panic, se distingue par un pouvoir unique, celui de flotter quelques secondes dans les airs. Cette caractéristique sera reprise, avec plus ou moins de régularité, dans les futurs jeux mettant la princesse en qualité de personnage jouable. Dans les récents Super Mario 3D World ou Super Smash Bros. À compter de Melee, mais également de façon intéressante dans Super Mario RPG ou Super Princess Peach, où les développeurs donnent à la princesse une ombrelle avec laquelle elle pourra doucement flotter ou tomber lentement plus tôt. Il paraît difficile ici de ne pas voir dans ces derniers exemples une continuité des premiers. Mais à ce moment-là, nous nous demandons bien ce qui a conduit les développeurs à entériner cette caractéristique dans la fiche du personnage, si je puis dire, au point de la modifier parfois par une ombrelle, et les conséquences qu'il peut avoir sur les réseaux de signes de ce jeu et des subséquents, tant du point de vue du gameplay que du dessin du personnage lui-même. Il nous faut cependant utiliser cette introduction pour justifier nos choix, car, après tout, on pourrait aisément se demander la même chose pour Luigi et ses sauts lunaires, nonobstant, répondrai-je, le fait que ce pouvoir de Luigi était déjà installé dans Super Mario Bros. The Lost Levels. La différence que je fais alors ici tient surtout à ce que c'était là le premier rôle de la princesse en qualité de héros jouable et que, depuis, elle ne reviendra que très sporadiquement aux côtés du plombier. Elle a été, malgré cette aventure inaugurable, toujours cantonnée au rôle de la princesse en détresse. Et même aujourd'hui, comme en témoigne la toute récente bande-annonce de Super Mario Odyssey pour Nintendo Switch, elle ne s'éloigne que trop rarement de ce rôle. Il nous apparaît donc surprenant qu'une héroïne aussi rarement exploitée conserve, constamment, ses mêmes caractéristiques et qu'on ne les fasse pas évoluer, que l'on ne redémarre pas les choses de zéro. C'est donc qu'elles doivent avoir une certaine importance. En ce sens, nous poserons la problématique de l'émission comme suit. Pourquoi les développeurs associent-ils constamment, depuis Super Mario Bros. 2, la princesse Peach et le pouvoir de flotter?
Deuxième partie, les constantes irrégulières.
Dans un premier temps, rappelons quelques éléments concernant les relations entre le dessin des personnages, le gameplay et les réseaux sémiotiques que nous pouvons rencontrer. D'ores et déjà, rappelons que le dessin d'un personnage, c'est-à-dire la façon dont il est représenté, mais également les attributs qu'on lui prête, ne sont jamais anodins. L'on connaît bien, ne serait-ce, que les choix ayant présidé à la création de Jumpman à l'époque de Donkey Kong. Une moustache pour éviter d'avoir à dessiner une bouche, une salopette pour distinguer les jambes, et ainsi de suite. Même les jeux ultérieurs, sur des supports graphiques bien plus puissants, tissent des liens réguliers entre ces différents indices. Nous renvoyons, ne serait-ce, qu'au deuxième épisode de notre émission où nous évoquions les liens, dans la saga des Metal Gear Solid, entre la cigarette et le bris du quatrième mur, ou le cinquième épisode sur le dessin des boss de jeux de plateforme qui articulent, en les réduisant à leur fonction première, les fondamentaux du genre. Les exemples sont plus nombreux encore, mais je m'en déporte. Chacun en trouvera à foison, et c'est là l'indice le plus patent d'une sémiologie du jeu vidéo et de la possibilité d'une grammaire. Le jeu vidéo a ceci de particulier, bien qu'il le partage notamment avec le cinéma et, dans une bien moindre mesure, la littérature ou du moins ce que l'on appellera la paralittérature, c'est qu'il a exploité et emploie les mêmes personnages et les mêmes figures de jeu en jeu et de saga en saga. Nintendo, de tous les développeurs, est peut-être celui qui aime le plus à faire cela et à construire de véritables dynasties qui existe depuis plus de 10 ou 20 ans. Mario, Zelda, Metroid, même les héros plus rarement vus en qualité de personnage principal, à l'instar, mettons, d'un Wario ou d'un Yoshi, ne disparaissent jamais. Ils sont simplement mis de côté et réveillés, à un moment donné, comme si rien ne s'était passé. Une question se pose alors. En quelle mesure ce nouvel avatar doit-il se conformer au précédent? Quels sont les endroits que les développeurs peuvent changer, ceux qui sont intouchables? Il est question de métamorphose ici, de continuité et de changement. Prenons quelques cas exemplaires et tâchons de trouver leur étymon spirituel. Nous prendrons pour cela les exemples de Mario, uniquement dans les jeux en deux dimensions pour garder une certaine continuité sémiotique, de Samus Aran, à nouveau, uniquement dans les jeux en deux dimensions, et de Ryu, de Street Fighter, pour varier les styles de jeux étudiés. Déjà, quelques remarques générales et autres précautions d'usage. Tout d'abord, l'identification de ces trois héros et héroïnes s'effectue par leur nom d'une part et par le titre de la série de l'autre. Si ce n'est des sous-titres ou des numéros divers, la structure globale des titres est relativement homogène. On peut postuler que la chose est assez forte pour que le contraire soit décevant. Metroid Federation Force a été le premier Metroid sans Samus Aran directement en qualité de personnage principal. Et même si cela sort de notre classement initial, il y a des chances pour que cela ait influencé la mauvaise réception du jeu. Deuxièmement, l'identification s'effectue également par le dessin dont je parlais plus haut. Quand bien même y aurait-il quelques ajustements à la marge, couleur des yeux ou des cheveux, taille ou masse relative à l'écran, les contours du personnage reprennent constamment ceux du tout premier épisode ou, du moins, si la technologie ne permettait pas un niveau de détail suffisant, des représentations que l'on pouvait trouver dans les manuels, modes d'emploi et supports publicitaires du temps. À nouveau, pour faire un autre parallèle, le nouveau dessin de Dante dans DMC, Devil May Cry, sorti récemment, a subi de nombreuses critiques dans ce sens-là. Et nous pensons qu'il ne s'agit pas seulement d'une question d'esthétique, mais également de reconnaissance du personnage principal. Ceci étant dit, rentrons plus dans le détail. Il me semble que l'identification se fonde, aux côtés de ces deux signes linguistiques et iconographiques, sur certains signes de gameplay, et uniquement ceci. Prenons Mario. Entre Super Mario Bros., Bros. 2, Bros. 3, World, et ainsi de suite, seul le power-up de la fleur de feu fait une apparition constante, à l'exception de Super Mario Bros. 2 cependant. Mais même si nous enlevons ce jeu de notre corpus, compte tenu de son histoire particulière comme nous le rappelions, observons que la fleur de feu perd, dans nombre d'épisodes, son statut principal pour être concurrencé par d'autres power-ups. En eux-mêmes, il y a eu dans ces jeux davantage de power-ups permettant à Mario de voler que de lancer du feu. Et pourtant, c'est ce pouvoir-là que l'on n'oublie pas, et que l'on garde, bon an, mal an, sans modification, alors que chaque épisode invente un nouveau pouvoir pour permettre au plombier de voler. Feuilles, plumes, casque hélicoptère, gland, et ainsi de suite. Pour Ryu, c'est la boule de feu, ou le Hadouken, et ce même s'il aura de nouveaux mouvements. Pour Samus Aran, le Marumari, ou la transformation en boule, alors que son arsenal va augmentant et se modifiant. Quand bien même nous tromperions-nous, et qu'un sondage plus sérieux déplacerait ce curseur, il nous semble que ce n'est pas une somme de pouvoir ou de capacité qui fonde l'identité d'un personnage, mais un pouvoir, une capacité en particulier. Il y a comme quelque chose qui nous empêche de saisir la complexité, et les héros marquants sont ceux qui peuvent se réduire à la portion congrue. Nous pensons qu'il y a là quelque chose d'inhérent à notre conception du média, comme si les réseaux sémiotiques, déjà chargés, imposaient une simplicité pour ne pas perdre de vue le point central d'un titre quelconque.
Troisième partie, l'insoutenable légèreté des choses à venir.
Cette réflexion nous amène alors au personnage de la princesse. Son inclusion dans Super Mario Bros. 2 se fait, initialement, sur le mode du modèle de remplacement. Il fallait un personnage en remplacement de Lina de Doki Doki Panic et comme, en 1988, le monde de Mario était loin d'avoir autant de personnages qu'aujourd'hui, elle était sans doute la seule à remplir ce rôle ou, du moins, à remplir un rôle. Car une fois les frères Mario introduits, deux personnages, deux rôles restaient à pourvoir. Lina et Papa. Il semblerait que l'association de ces personnages avec leur contrepoint Mario-esque se soit fondée notamment sur des ressemblances graphiques. Papa porte, dans Doki Doki Panic, un turban ressemblant vaguement au chapeau ou à la tête de Toad. Et Lila est une fille. C'est sincèrement le seul point commun avec la princesse Peach. Lina est sinon habillée de rose, et nous rappelons que la robe de la princesse dans Super Mario Bros. Était blanche. Une fois le rôle attribué, il y a une deuxième curiosité quant au passage de Doki Doki Panic à Super Mario Bros. 2. Tandis que Papa était le moins bon sauteur, les caractéristiques de Toad ont été améliorées pour l'occasion. C'est-à-dire que la balance du jeu était déjà compromise, et rien n'obligeait dès lors à garder pour la princesse Peach tous les pouvoirs de Lina. Il nous semble que les développeurs ont profité, cette fois, du dessin de la princesse pour justifier, a posteriori, ses pouvoirs. Une robe à crinoline, quelque part, donne une impression de flottant qui correspondent aux capacités du rôle occupé par la princesse. Nous avons là comme un cercle complet. Le dessin de Lina contraint le choix de la princesse, puis le dessin de la princesse justifie le pouvoir de Lina. L'association contrainte d'un dessin avec un pouvoir permet d'ancrer, comme nous l'avons vu, l'identité du personnage. Mais qu'en est-il de sa constante de power-up? Si nous refaisons l'historique de Peach en qualité d'héroïne, il faudra attendre 2005 et Super Princess Peach pour la revoir jouable dans un jeu de plateforme, voire 2013 et Super Mario 3D World pour la retrouver aux côtés des frères Mario. Entre-temps, nous le disions, ses apparitions ont toujours été remarquées dans des jeux de rôle, surtout Super Mario RPG à dire vrai, puisqu'elle ne sera plus jamais jouable en tant que telle dans les Paper Mario ou les Mario et Luigi à l'occasion de Super Paper Mario et, éventuellement, des jeux de sport ou de combat. Dans ces différents styles de jeu, le pouvoir de flotter n'est guère utile. Si on peut envisager son utilité pour traverser des gouffres, quel intérêt peut-on trouver à ce pouvoir dans un jeu où l'on ne dispose point d'un bouton de saut dédié? Il nous semble qu'il y a eu, à partir de là, renforcement du pouvoir de Peach pour construire son identité ou, du moins, pour tâcher de la construire. Bien que Mario n'ait pas de personnalité marquée, son rôle de protagoniste permet à chacun de projeter son opinion sur lui. Luigi, au fur et à mesure de ses apparitions, devint le couard que l'on apprécie à présent. Les Toads se multiplièrent à loisir, chacun prenant une sorte de variation sur le thème de la nonchalance ou de l'enthousiasme extatique. Mais la princesse, éternelle enlevée et, par là, passant le clair de son temps hors du champ, n'a jamais eu de personnalité réellement marquée. Elle est heureuse, en quelque sorte, insouciante, légère, mais rien de plus. Mais c'est ici, ce nous semble, que se noue notre problématique. Cette personnalité, que l'on voit de plus en plus et depuis, peu ou prou, Super Mario Sunshine, où elle apparaît davantage dans des cinématiques, nous semble directement dérivée de ce pouvoir flottant. Il y a comme un effet métonymique qui s'est opéré ici et qui n'a concerné que la princesse. De la même façon que le coup d'épaule de Wario, comme nous le montrions, a permis à un signe de gameplay de construire fondamentalement ce nouveau héros, le pouvoir de flotter de la princesse a créé cette sorte d'icône de la légèreté, de l'insouciance tranquille qui fait à présent parfaitement partie de ses contours. Il y a néanmoins deux nuances décisives. D'une part, ce pouvoir n'a pas été instauré pour résoudre un problème de gameplay, mais repris d'un autre jeu dans lequel il simplifiait légèrement le gameplay en faisant une sorte de mode facile. Remarquons d'ailleurs que dans Doki Doki Panic, c'est la petite fille qui possède ce pouvoir, ce qui crée un parallèle évident entre ses supposées capacités de jeu, du moins dans la représentation que l'on pouvait s'en faire dans les années 1980, et le pouvoir de flotter. D'autre part, il faudra attendre plusieurs années pour que ce pouvoir ait effectivement une influence sur le caractère du personnage, alors que la création de l'identité de Wario est concomitante à l'établissement d'un personnage violent. Sans pour autant faire le procès du sexisme dans la série des Super Mario, d'autres l'ont fait avec bien plus de temps et de précision, nous remarquons cependant que la chose s'est, pour ainsi dire, bien goupillée. Elle permettait aux développeurs d'associer efficacement un pouvoir incident, vaguement propre au personnage mais élu par défaut, en réalité, avec un trait de caractère qui en révélerait davantage sur le dit personnage.
Quatrième partie, les incarnations genrées.
Mais même sans parler de sexisme, La relation immédiate entre la personnalité de la princesse et son pouvoir de flotter nous fait nous demander quelle est la place des personnages féminins dans l'économie de la série des Super Mario, eux qui ont été souvent accusés de promouvoir, malgré eux peut-être, une vision des relations humaines qui affaiblissent les femmes au profit des hommes. Je ne ferai ici le procès de quiconque. J'observais cependant que jusqu'à tout récemment encore, seuls Mario et Luigi, parfois quelques Toad, pouvaient être contrôlés dans les jeux de plateforme. Et récemment, des personnages comme Harmony et Peach, évidemment, devinrent des héroïnes à part entière. Que reproche-t-on à ces personnages féminins en réalité? Ce ne sont pas seulement leurs statuts, pour Peach notamment, puisqu'Harmony fut épargnée par ce phénomène, mais leur personnalité vide. Que l'on prenne Peach dans toutes ses incarnations dans les jeux Mario. Elle soutiendra Mario dans sa quête, comme dans Super Mario Bros. 3, ou bien restera insouciante, peu inquiétée malgré le danger, comme Super Mario Sunshine. Le peu d'impression qu'elle laisse donc, quant à l'histoire, peut la faire commuter avec un quelconque objet de quête, des fées comme dans Super Mario 3D World, ou une grande étoile, et ainsi de suite. Aussi, pour établir ce personnage comme personnage jouable, les développeurs devaient soit lui construire une personnalité, soit lui prêter un pouvoir qui justifiait, en retour, cette personnalité. Le principe de la saga et de la dynastie empêche aux personnages principaux d'évoluer du tout au tout, nous l'avons précisé précédemment. Il était alors impossible à Peach de soudainement développer un trait de caractère nouveau dans ses incarnations jouables, sous peine de compromettre la cohésion, plus que la cohérence, de la série des Super Mario Bros. Comme il fallait alors justifier son insouciance entérinée par des années de jeu, le pouvoir de la flottaison vient à la rescousse des auteurs. Si Peach réagit comme elle le fait à l'aune du danger, c'est parce que son pouvoir, influençant son caractère, l'amène à faire ainsi. Il y a comme une forme de prise de conscience ici, une justification externe à cette caractéristique. On a fait de la faiblesse du personnage une force et un trait décisif de son identité. Ainsi débarrassé de cet argument premier, les critiques que l'on peut adresser à la série des Super Mario deviennent caduques. Ce n'est plus une princesse que l'on enlève, un prétexte à une quête quelconque, mais une héroïne au contour détouré, avec laquelle on peut créer une connexion émotionnelle et qui, ce faisant, n'est plus interchangeable avec qui ou quoi que ce soit. Il est intéressant ici de comparer Peach, nous l'avons évoqué en filigrane, avec l'autre figure féminine de la saga, à présent parfaitement incluse dans celle-ci, Harmony. Harmony est un personnage féminin dont le parcours vidéoludique est à l'exact opposé de celui de Peach, et cela nous permet alors, par contraste, de valider les observations que nous venons de faire. Lors de sa première apparition dans Super Mario Galaxy, Harmony est toute histoire. Elle n'est point enlevée, mais elle est présentée comme le capitaine de l'observatoire et quand bien même serait-elle réduite, plus ou moins, à un rôle de panneau indicateur indiquant le prochain objectif de la quête du joueur, la zone de la bibliothèque nous permet d'accéder à l'histoire de son enfance dans un récit, au sens à peine voilé, et où, du moins c'est une théorie souvent avancée, elle serait l'enfant, caché, volé ou dissimulé, de Peach et de Mario. Après cette introduction caractérisée, dans tous les sens du terme, on la retrouvera réellement dans des jeux comme Mario Kart 8 ou Super Smash Bros. For Wii U, et surtout dans Super Mario 3D World dans lequel elle sera, pour la première fois, jouable. Mais à ce moment-là, quel pouvoir lui donner ? Nous observons que les développeurs ont choisi quelque chose en accord avec son origine spatiale sous la forme d'un double saut, ce qui n'est pas sans rappeler l'infinité sidérale qui la vit naître. La translation métonymique s'est donc opérée dans l'autre sens, du caractère vers le pouvoir. Mais en lui-même, le mécanisme est le même que celui que nous avons décrit pour la princesse Peach. Nous notons aussi que ce sont les personnages féminins qui subissent cette relation directe. La couardise de Luigi est difficilement rattachée à sa faculté à sauter très haut. Cela aurait été plus cohérent s'il avait pu courir vite, mais c'est Toad, nous l'avons vu, qui a cette caractéristique et ce, y compris dans Super Mario 3D World. Tandis que les pouvoirs de Mario n'ont, à ce qu'il nous semble, aucune relation directe avec sa personnalité héroïque. La fleur de feu aurait pu lui donner un caractère impétueux, mais ce n'est pas le cas. Autrement dit, il y a bien quelque chose, sémiotiquement, qui se tisse entre les personnages féminins de la dynastie Mario et leurs pouvoirs respectifs. Si nous avons raisonné jusqu'à présent en termes de cause, considérons cette fois-ci les conséquences. En quoi le double saut d'harmonie, ou le pouvoir du vol de Peach, est-il pertinent quant à la balance ou à l'équilibre des jeux Mario où il s'illustre? Après y avoir réfléchi, nous n'avons pas trouvé d'autre raison que celle-ci. Le personnage féminin, intuitivement, est interprété comme le mode facile dans ces jeux vidéo. Intuitivement, un joueur débutant ou un enfant le choisira et saura ainsi mieux conduire sa partie. Nous rappelons que dans Doki Doki Panic, c'est la petite fille, Lina, qui a le pouvoir qui sera ensuite l'apanage de la princesse Peach. Même si, comme nous l'avons vu, la chose a dû être motivée pour des raisons graphiques et pratiques, symboliquement, nous ne pouvons nous empêcher de voir là davantage qu'un simple hasard du développement. Nous savons que le jeu vidéo fut, jusqu'à tout récemment, surtout l'apanage des petits garçons, des adolescents ou des jeunes adultes. Les filles, puis les femmes, vinrent après et en nombre. Nous savons qu'aujourd'hui, elles composent près de la moitié des joueurs de jeux vidéo. Néanmoins, et nonobstant cette donnée sociologique, force est de reconnaître qu'est souvent associée la figure féminine à celle d'une personne peu habituée ou peu sachante du jeu vidéo. Que ce soit Peach ou Harmony, leur pouvoir les invite à être des choix intelligents permettant aux joueurs peu assurés de leurs capacités. Tout un chacun sait à quel point le fait de flotter, ou un double saut, facilite grandement les phases de plateforme les plus retorses. Insidieusement cependant, cela crée une association malheureuse dans l'esprit des joueurs. La chose n'est pas, de plus, cantonnée au jeu Mario. Si nous prenons une héroïne comme Samus Aran dans la saga des Metroid, nous voyons que, tant que son identité est cachée sous son armure, aucun défi ne lui est inaccessible. Mais lorsque, dans Metroid Zero Mission par exemple, elle se dévoile et perd son armure, la voilà réduite à merci et obligée de se dissimuler pour survivre. Il semble que les femmes, dans les jeux Nintendo, répondent toujours à cette problématique, à cette relation entre un pouvoir qui siérait à une certaine représentation de leur sexe et leur identité en tant que femme. Il ne s'agit pas ici de faire une analyse féministe de ces jeux, mais d'observer une tendance structurée qui, à ce qui nous semble, influence directement le gameplay et la réception que nous en avons.
Cinquième partie, l'essence de l'apparence.
Les relations entre les capacités d'un personnage de fiction et sa propre personnalité sont loin d'être réservées aux jeux vidéo. Le monde des super-héros, ne serait-ce, a fait de cette caractéristique la pierre angulaire de son existence. Et il suffit d'aller voir un roman graphique comme Watchmen pour voir comment ces choses-là, lorsque poussées à leur paroxysme, permettent de construire intelligemment un univers. Indépendamment de la représentation des personnages féminins, cette tendance moderne que l'on retrouve très régulièrement n'est pas uniquement, du moins à ce que nous pouvons comprendre, réservée aux jeux vidéo ni même, à dire vrai, à la période moderne. Il est intéressant de revenir sur le sens du mot « apparence », car il nous semble que son évolution témoigne d'un changement notable des mentalités sur cette problématique. Étymologiquement, l'apparence est bien l'apanage de ce qui appaire, soit de ce qui est obvious, évident, mais également de ce qui existe réellement. Si vous lisez les essais de Montaigne, c'est bien dans ce sens-là que ce grand auteur l'emploie dans sa langue. L'apparence d'un homme, d'une femme, c'est, ou c'était, avant toute chose la retranscription de sa personnalité et de son être véritable. Faire, c'est être, pour ainsi dire. Ce que nous montrons était vu comme la réalité objective et ce sur quoi un jugement pouvait facilement se faire. Depuis le XVIIe siècle, cette définition est changée. La création des sciences sociales ensuite, et de la psychologie clinique, revisita très notablement ce paradigme. On apprit soudainement que l'apparence était une vision déformée de l'être véritable, qu'il était possible de l'atteindre, mais qu'il fallait, et c'est là que l'expression prit réellement son sens, dépasser les apparences. Il existe apparemment quelque chose de plus profond, mais il faut aller au-delà de ce qui surgit, saillant, sous nos yeux. Où se situe le jeu vidéo ? Comme nous l'évoquions lors du précédent numéro, consacré à une réflexion à micro ouvert sur divers thèmes, le jeu vidéo n'a pas encore atteint cette maturité qui lui permettrait d'aller au-delà des apparences et de proposer une véritable réflexion sur ce qui fonde un avatar comme ressentant une émotion vaguement humaine. Du moins, il nous semble que la saga des Super Mario n'est pas encore atteint ce stade, et peut-être même ne désire-t-elle jamais parfaitement l'atteindre. Peut-être que cela n'est point son but et que, le cas échéant, cela serait comme une dartre ridicule, impossible à agencer avec le reste de l'univers. Quelle que soit la solution proposée, le jeu vidéo et Super Mario en particulier se trouvent dans cette première étape de l'apparence. Le pouvoir d'un personnage définit directement sa personnalité, son identité, ce qu'il est et que l'on ne peut dépasser. Cela fonde, dans le cadre des dynasties et comme nous l'avons dit plus haut, l'identité d'une saga, et on ne saurait bouger un iota de ceci sans engager et compromettre les contours mêmes de la dynastie. Qu'on y réfléchisse. Le succès des suites et des suites de suites, des améliorations mineures et, globalement, du retour ad libitum des mêmes noms dans notre média, n'est jamais que la représentation d'une apparence, d'une identité qui ne peut se dissimuler où que ce soit. Envisager de la profondeur et de la complexité, voire au-delà des apparences, c'est construire un personnage bien trop fermé et qui ne saurait revenir ultérieurement, car les situations s'exerçant sur lui seront différentes, et on ne saurait aller au-delà des bornes que l'écriture a mises sur son chemin. Plus un personnage sera repris, et plus il s'illustrera dans des films distincts, plus on observera un appauvrissement de ses motivations. Il ne sera plus qu'un avatar creux dont la valeur ne pourra se révéler, éventuellement, qu'avec les compères qui le suivront et, encore, ce seront ces derniers qui seront réellement intéressants. James Bond ne vaut que pour le terroriste qu'il affronte. On aime davantage Henry Jones que son fils Indiana. Mario pouvait bien, en tant que Jumpman, paraître agacé sur la jaquette du jeu Donkey Kong. Mais il arbore à présent, et sempiternellement, le même sourire figé, si difficile à interpréter. Qu'est-ce donc à dire quant à la place de la scénarisation et du développement des personnages dans un jeu vidéo ? Y a-t-il espoir de développement d'une personnalité dans cette interaction si particulière qui se crée entre le joueur, manette en main, et l'entité jeu vidéo? Les choses sont compliquées. Une interaction suppose, nous l'avions dit dans notre 10e émission consacrée à Half-Life et Portal, une projection quelconque dans un avatar et il doit donc, ce faisant, être suffisamment souple, malléable, pour se soumettre à cet exercice. Une construction suppose quant à elle un tour délimité. Les choses nous semblent inconciliables. Est-ce donc la raison pour laquelle, dans les jeux d'action-aventure, mettons, ou bien dans les jeux de tir, les protagonistes ont tous les mêmes compétences, les mêmes activités de personnalisation de leur arme, les mêmes mouvements de discrétion, jusqu'aux mêmes apparences, généralement celles d'un homme blanc, dans la trentaine, brun et à la barbe drue? Ce que l'on peut comprendre comme un manque patent d'originalité ne serait, en réalité, que la plus simple des solutions pour développer une personnalité sans mettre en péril l'interaction inhérente aux médias. Et parmi toutes ces icônes et toutes ces problématiques, gît la princesse Peach. Sa longévité force le respect. Là où Sonic se risqua à des objectifs tous plus distincts les uns que les autres, et tandis que Zelda finit par ne plus être systématiquement enlevée, participant même au combat de Link, Peach a gardé son air et sa robe à crinoline flottant. Insouciante, légère, elle demeure. Nintendo a tâché de faire de sa transparence sa raison d'être. Et si elle persiste à être une piètre excuse pour une quête, on la pardonnera en se disant que, peut-être, elle erre dans des cieux qui nous seront à jamais inaccessible.
Vous aimez les émissions produites par Radio Kawa et vous aimeriez pouvoir nous donner un petit coup de pouce? Rendez-vous sur patreon.com/radiokawa et devenez mécène de nos émissions en public, de notre nouveau matériel et de bien d'autres projets visant à améliorer le Radio Kawa que vous connaissez et que vous aimez. Radio Kawa ne touche aucun revenu publicitaire, alors à vous de jouer sur patreon.com/radiokawa.
Ça te plaît?
Qu'est-ce qu'elle est bonne?
C'est complètement addictif. Je vais jamais pouvoir m'en passer.
Dis-moi chérie, t'es bien vierge?
Vous en avez marre de vous poser des questions stupides sur la sexualité?
Papa, comment on fait les bébés,
Vous n'osez pas demander à votre maman?
Minuit 69 casse les tabous, les idées reçues et les complexes.
Une fois par mois, entre adultes consentants...
Minuit 69 ne parle pas de cul. Minuit 69 vous parle de sexe.
Minuit 69?
Ouais, c'est complètement addictif.